Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir à tous et bienvenue en RTL Soir et à la une, le coup de chaud. Ça y est, la vague de chaleur déferle sur le pays. Peggy Broche va scruter les températures pour nous tout au long de l'émission. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien.
On s'est approché des 40 degrés dans le sud.
Exactement, les températures maximales. 37,9 à Gros-Pierre en Ardèche, relevé à 17h. 37,3 à Auch dans le Gers. Pareil du côté de Salindres dans le Gard et 37,2 à Toulouse.
Ça risque de durer, de s'étendre. À quoi faut-il s'attendre? Comment votre corps va réagir dans les prochains jours? Comment se protéger, protéger nos anciens? À 18h15, conseil, précision avec Louis Baudin, Serge Smadja de SOS Médecins et vos appels bien entendu au 3210. Les autres titres de l'actu à suivre dans votre journal. Hortense Crépin, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Coup de chaud aussi sur la majorité à 5 jours du second tour des législatives. Emmanuel Macron réclame un sursaut républicain dimanche pour obtenir une majorité solide. Du côté de l'Union des Gauches, comme un symbole de la percée de la NUPES, elle est arrivée deuxième dans la très chic ville de Neuilly-sur-Seine. Exit le candidat LR, reportage étonnant dans ce journal. Le propriétaire du site pornographique Jackie et Michel en garde à vue dans une enquête pour viol et proxénétisme. Et puis le football, Aurélien Tchouaméni se prononce désormais presque en espagnol. L'international français est arrivé au Real Madrid.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL vous explique l'enfer des combats dans le Donbass. 100 soldats ukrainiens tués chaque jour. À 18h30, les dessous de l'actu. Dans une classe de terminale avant le bac de philo, demain 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Signé, l'équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, le parcours d'une loi, de l'idée de la permanence de votre député à son adoption à l'Assemblée. Vous allez découvrir une véritable course d'obstacles législatives. Au menu également, le héros inattendu de l'Australie, la vraie signification du mot baccalauréat et un bon coup de clim.
À 19h, RTL Soir, seconde édition. Le gouvernement réagit à notre info RTL 144 entorses vestimentaires à la laïcité dans les collèges et lycées ces derniers mois. Et puis à 19h15, on refera le monde avec Éric Brunet et les polémistes.
RTL Soir,
le journal, Julien Cellier, Hortense Crépin.
Le soleil et l'avion présidentiel dans le dos. Depuis le tarmac d'Orly, Emmanuel Macron s'est exprimé en milieu d'après-midi avant de s'envoler en Roumanie. Il va rencontrer des soldats engagés dans la guerre en Ukraine. Mais avant de partir, le chef de l'État a donné une courte allocution. Objectif, faire passer un message à 5 jours du second tour des législatives.
Il s'agit d'un moment historique et nous vivons des temps historiques. Dans ces temps troublés, le choix que vous aurez à faire ce dimanche 19 juin est plus crucial que jamais. Mais parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays.
Bonsoir Vincent Derosier.
Bonsoir.
Le président en déplacement en Europe de l'Est ne sera pas dans l'arène ces prochains jours. Alors on se demande un peu pourquoi ce message maintenant. Il n'y aurait pas comme un petit coup de vent de panique ou plutôt un coup de chaud dans la majorité?
Oui, un coup de chaud et des sueurs froides. D'après nos informations, Emmanuel Macron n'a pas apprécié du tout la fébrilité affichée dans son propre camp dimanche soir. Il a donc fait passer un triple message à ses troupes en début de semaine. Stop aux états d'âme des uns et des autres. Stop aux polémiques stériles comme sur les consignes de vote. Enfin, il a secoué tout le monde. Aller convaincre les abstentionnistes, a-t-il lancé. La dramatisation vue à Orly, elle est assumée à l'Elysée. Le pupitre sur le tarmac, le moteur de l'avion qui tourne derrière lui. Le lien entre le désordre mondial et les législatives. Le président veut provoquer le sursaut républicain, décrypte un proche. Dramatiser et faire peur aussi en démontrant que voter pour la NUP, c'est mettre en danger l'Europe, la défense et les économies des Français.
Et dans son intervention, Vincent, pas de trace de consigne de vote pour dimanche en cas de duel entre le Rassemblement National et la NUP, l'Union des Gauches.
Non, ce n'est pas du niveau d'un président, ça c'est le problème des quatre de la majorité maintenant. Emmanuel Macron, lui, voulait prendre de la hauteur avant de s'envoler pour la Roumanie. D'ailleurs, il ne mentionne pas la NUP dans son intervention, pas une seule fois, mais il y fait allusion quand même lorsqu'il dit vouloir défendre nos institutions face à tous ceux qui les contestent et les fragilisent, ou quand il affirme que pas une voix ne doit manquer à la République.
Vincent Derosier du service politique de RTL, réaction immédiate chef de l'opposition. L'écologiste Julien Bayou parle d'un président qui perd ses nerfs. Un sketch à la Trump pour Jean-Luc Mélenchon.
Le patron des Insoumis qui va répondre à Emmanuel Macron. Meeting à Toulouse dans une heure, alors que la NUP espère bien récolter sa majorité à l'Assemblée, en rêve encore, en chassant aussi, tiens, sur des terres historiques de la droite.
Direction Neuilly ce soir, juste en bas des studios de RTL, la très cossue ville des Hauts-de-Seine, indissociable des Républicains et de Nicolas Sarkozy. Eh bien, tenez-vous bien, pas de second tour pour le candidat LR de la circonscription, la majorité présidentielle largement en tête devant la NUP. Valentin Boisset, ce sont les jeunes qui semblent avoir changé la donne.
Oui, Neuilly, c'est Porsche, c'est Mercedes, c'est BMW. Nicolas sort de chez le tailleur.
Moi, ce qui me choque le plus, c'est pas que les NUP soient au second tour, c'est que les Républicains ne le soient pas.
La gauche a atteint ici les 15% dimanche. Marie, 18 ans, explique cela par la mobilisation de la jeunesse à la voter NUP.
C'est bien pour les jeunes, et ma mère, mes parents ne voudraient pas, voteraient pas pour la NUP. Moi, notamment pour l'écologie.
Et vos parents font quoi dans la vie?
Ils ont des entreprises, quoi.
Enfin, de droite.
Julie Barbeau, la candidate de gauche, ex-gilet jaune, pas vraiment le standard ici, ne fera campagne cette semaine qu'en direction de la jeunesse.
Donc là, on va faire une campagne vraiment axée sur la jeunesse et l'écologie, surtout en cette semaine où il va faire autour des 40 degrés.
Ce score s'explique aussi car la circonscription compte en son sein Puteaux et Courbevoie, des villes plus à gauche. Constance Le Grip de la majorité a cependant entendu le message.
Une configuration inédite. Il y a incontestablement des changements sociologiques, une prise en compte plus forte des préoccupations environnementales.
La candidate macroniste pourra compter sur le report de voix des électeurs de droite.
Un reportage de Valentin Boisset du service politique de RTL. RTL vous le révélait ce matin, les incidents scolaires liés au voile islamique et aux tenues traditionnelles se multiplient. 144 ports ostentatoires au deuxième trimestre, c'est deux fois plus qu'au premier, mais cela reste marginal hein, sur les plus de 5 millions d'élèves du secondaire. On va agir s'il y a lieu, a réagi cet après-midi le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Précision dans le journal de 19h sur RTL.
RTL, 18h06, pas besoin de le lire pour le ressentir. Le thermomètre commence à grimper et ce n'est qu'un début.
Des températures déjà bien au-delà des 30 degrés ce mardi dans le sud-ouest notamment. Le pic est attendu entre jeudi et samedi dans tout le pays. Des épisodes qui vont se répéter de plus en plus. Alors certains anticipent et s'équipent pour éviter de suffoquer. Reportage à Paris de Lisa Guinic pour RTL.
Les tuyaux vont passer dans cette cloison-là.
Jules franchit le pas. Il fait installer un climatiseur dans son appartement. Au cinquième étage, la chaleur est difficile à supporter.
On est dans une cuvette, du coup, il n'y a pas de vent, il y a beaucoup d'humidité, et ça devient lourd, on dort mal. Mes trois années passées à Paris, surtout une année où j'étais au dernier étage, et là, vraiment, j'en ai bavé. Un ventilo, ça fait énormément de bruit et c'est pas très efficace.
Alors cette année, le réalisateur de 24 ans passe le cap. Un climatiseur prend place à côté de sa baie vitrée pour un coût de 3 500 €.
Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologique. Ouais, c'est le confort de pouvoir profiter d'un air frais et moins humide aussi.
Jules n'est pas le seul à recourir à une climatisation à domicile, comme le confirme son installateur Daffer Carry, le gérant de la société Froidclim.
On enregistre des températures quand même records par rapport à d'autres années. Et au mois de juin, on n'a jamais eu cette température-là. À partir de 25, quelque chose comme ça, bah on a eu les appels qui vont tripler, quadrupler.
Les trois chats de Jules, pour le moment allongés sur le carrelage de la cuisine, n'attendent eux qu'une chose, la fin du chantier dans 3 jours et la mise en route de ce fameux climatiseur.
Le reportage de Lisa Guinic pour RTL.
Allez, petite pause dans ce journal, dans RTL Soir. Et ensuite, le propriétaire du site pornographique Jackie et Michel en garde à vue. Enquête pour viol et proxénétif qui est ouverte depuis près de 2 ans. On vous explique tout juste après ça. A tout de suite dans RTL Soir.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Jackie et Michel, le site pornographique intéresse la justice.
5 personnes dont le patron de la plateforme ont été placées en garde à vue ce matin. Bonsoir Guillaume Chiez.
Bonsoir.
Avec sa femme et 3 acteurs, il est entendu dans une affaire ouverte depuis 2 ans, notamment pour viol et proxénétisme.
Oui, et au cours de ces 2 années d'enquête, 7 victimes ont été identifiées par la PJ. Cette femme, âgée aujourd'hui de 35 à 51 ans. Elles ont toutes déposé plainte et expliquent qu'elles n'avaient pas consenti à tourner certaines scènes dans les vidéos diffusées par le site Jackie et Michel. Des scènes impliquant par exemple plusieurs partenaires ou encore des actes sexuels pour lesquels elles avaient clairement dit non. L'enquête porte donc sur des faits de viol, de proxénétisme, mais aussi de séquestration et d'actes de torture et de barbarie. L'avocat du propriétaire de la plateforme a fait savoir ce matin que son client ignorait tout des violences sexuelles visées par cette enquête, en précisant que le groupe Jackie et Michel étaient diffuseurs et non réalisateurs de ces vidéos.
Guillaume Chiez pour RTL, garde à vue. Vous venez de le dire dans le cadre de cette enquête ouverte depuis 2 ans. Une vraie avancée saluée par maître Camille Martini, l'avocate d'une des 7 plaignantes.
Il faut bien comprendre qu'on est face à un réseau de proxénétisme. Je crois qu'il faut dire les choses. On est face à une structure organisée et qui est à mon sens la plus grosse affaire de violence sexuelle faite aux femmes. L'industrie pornographique, c'est une industrie dans laquelle le consentement n'existe plus, dans laquelle le consentement est bafoué et extorqué. Les personnes, elles se mettent d'accord pour certaines scènes et la réalité, elle est tout autre parce que sur les tournages, on est sur des conditions très extrêmes avec des faits de viol qui n'étaient pas prévus, des actes qui n'étaient pas consentis et on a des femmes qui se retrouvent terrorisées, prises au piège.
L'avocate d'une des plaignantes jointe par Léonard Cassette pour RTL.
RTL Soir.
18h12, un mot de football maintenant avec le gamin qui valait plus de 100 millions d'euros.
On vous parle ce soir d'Aurélien Tchouaméni. Si vous n'êtes pas fanat de ballon rond, son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, à seulement 22 ans, il est en train de s'imposer en équipe de France et vient de quitter Monaco pour le Real Madrid. Transfert estimé à 100 millions d'euros, donc pour 6 saisons. Mathias Valton, vous êtes le correspondant de RTL à Madrid. La présentation officielle a eu lieu aujourd'hui. Opération séduction plus que réussie. Le désormais ex-joueur de Monaco a totalement conquis pour sa première prise de parole.
Oui, le Français a surpris et tout de suite mis tout le monde dans sa poche en délivrant ses premiers mots en espagnol.
Je suis très heureux d'être ici. C'est un rêve de signer au Real Madrid.
Il a déjà plus parlé espagnol que Gareth Bale en 8 ans, confiaient certains confrères espagnols. Préoccupé par le sujet, ces derniers lui ont ensuite demandé comment se prononçait son nom. Et là encore, Tchouaméni a bluffé tout le monde.
Mon prénom et mon nom sont...
Aurélien Tchouaméni.
Ok.
Allez.
Ce qui a aussi séduit, c'est la maturité et la sérénité qu'a dégagé Tchouaméni, comme sa volonté de rejoindre à tout prix le Real Madrid, alors que d'autres clubs comme le PSG et Kylian Mbappé lui ont fait la cour.
On a discuté avec Kylian. Lui, il a fait le choix de rester au PSG. Il savait que j'allais sûrement partir de l'AS Monaco à la fin de cette saison. Donc voilà, il a voulu prendre un peu la température, savoir s'il y avait la possibilité que je vienne à Paris. Mais comme je lui ai dit dès le début, mon premier choix, c'était le Real Madrid.
Après l'échec Mbappé, Tchouaméni a donc réchauffé le cœur des merengues, complètement tombé sous son charme.
Mathias Val, ton correspondant de RTL à Madrid, il y a quand même eu un Français qui est arrivé au Real au final.
Et finalement, effectivement, et on en fait un petit peu moins pour Kylian Mbappé. Je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup Hortense, à tout à l'heure. La chaleur, cher Peggy.
C'est ça, puisque les températures, en effet, Julien, continuent de grimper demain, alors surtout au nord. Dans le sud-ouest, ça va baisser légèrement, ça veut dire qu'on va perdre 1 ou 2 degrés, mais ça restera très chaud. Il a fait 37,2 degrés par exemple à Toulouse, donc c'est vous dire. Demain, la chaleur va également gagner le nord, de 23 à Cherbourg à 36 à Agen. Il fera 35 à Toulouse, 34 à Lyon, 33 à Marseille, Bordeaux, Grenoble, Mulhouse, Tours, 31 à Paris, 30 à Rennes et Reims, 27 à Lille et 25 à Caen. Côté ciel, alors cette nuit on a quelques orages localisés qui vont se déplacer entre l'Aquitaine et le Massif Central. On les retrouvera donc, ces orages du côté du Massif Central, ce sont vraiment des averses passagères, hein, avec parfois quelques orages, et ça va glisser vers les Alpes en fin de matinée. Ailleurs, on aura du beau temps après dissipation de quelques grisailles du côté de la Côte Basque par exemple, et puis une évolution orageuse sur le relief des Pyrénées et de la Corse dans l'après-midi, mais plein soleil sinon partout ailleurs.
Et dans quelques minutes, on donnera justement des conseils à nos auditeurs pour qu'ils puissent supporter, se protéger pendant cette vague de chaleur. La brigade RTL.
La brigade RTL Soir.
La brigade qui s'arrête ce soir à 18h14 sur cette phrase. Le coût humain de la bataille du Donbass est terrifiant. Ce sont les mots du président ukrainien Zelensky. Il déplore 100 morts, 500 blessés chaque jour pour mieux saisir l'intensité de ces combats dans l'est du pays. On va poser 3 questions à notre brigade RTL. Bonsoir Julien Fautra.
Bonsoir.
Ces combats, ils se déroulent sur plusieurs fronts.
Il y a un front, mais un front énorme, 900 km plus long qu'entre la mer du Nord et les Vosges lors de la Première Guerre mondiale. Un front, mais plusieurs lieux d'affrontement. Les Russes attaquent là où ça leur paraît stratégique, les Ukrainiens contre-attaquent là où ça leur paraît stratégique.
De quels combats parlons-nous ? De frappes aériennes, de combats de rue ?
Eh bien, c'est une combinaison de tout ça. Pilonnage intense d'artillerie, ce qui émerge, ce sont des fusées de proximité. Elles explosent
chose juste avant l'impact sur la cible pour faire des dégâts sur un périmètre encore plus large. Deux, les frappes lointaines dans plusieurs villes de l'ouest du pays. L'objectif de ces frappes lointaines, c'est d'empêcher l'approvisionnement du front en matériel, en armes, en nourriture. Oui, le combat de rue, vous en parliez. Les unités entrent et tentent de prendre la ville centimètre par centimètre, mais il a par exemple fallu 2 jours pour prendre un immeuble à Severodonetsk. Vous voyez à quel point c'est long, c'est intense et c'est meurtrier.
Et qui progresse en ce moment, les Russes ou les Ukrainiens ?
En l'état, les Russes lancent de nouvelles offensives à Kharkiv et ont acquis le centre-ville de Severodonetsk. Les Ukrainiens mènent leur effort à Kherson pour tenter de reprendre la ville. Ils sont à une dizaine de kilomètres. Un front qui pourrait s'enliser. Des kilomètres de tranchées sont creusées chaque jour dans le Donbass.
La brigade RTL, l'éclairage ce soir de Julien Fautra. Dans un instant, donc comme promis, RTL va vous épauler. Coup de chaud sur le pays avec Louis Baudin, avec Serge Smadja de SOS Médecins et avec vous au 3210. On va s'interroger à quoi faut-il s'attendre sur cette semaine, dans les jours à venir. Comment notre corps va réagir? Comment protéger nos anciens, mais aussi les plus petits? Vous allez avoir la parole dans un instant. On va échanger dans RTL Soir. Restez à l'écoute.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
les invités d'RTL Soir.
Et RTL Soir, avec vous, plus que jamais à vos côtés en cette fin d'après-midi brûlante hein, dans certaines régions. La vague de chaleur, vous l'avez compris, à la une. Alors à quoi faut-il s'attendre dans les heures, dans les jours qui viennent? Comment notre corps va réagir? Pourquoi nos anciens sont plus fragiles? Comment les protéger? On va s'interroger maintenant avec vos appels au 3210. On a notamment déjà des appels depuis les EHPAD. Et puis on va s'interroger avec notre spécialiste météo. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir.
Avec Serge Smadja, secrétaire général de SOS Médecins et médecin lui-même. Bonsoir Monsieur Smadja.
Bonsoir.
Alors avec vous deux, on va essayer de répondre aux inquiétudes de nos auditeurs. Louis, dites-nous déjà, parce qu'on a quasiment approché les 40 degrés, 37, 38 dans certaines régions ce soir. Est-ce que ça va durer, ça va s'étendre, ça va continuer de grimper dans les jours à venir?
Alors tout d'abord, ça va durer dans la moitié sud, hein, puisque demain dans le sud, nous aurons les mêmes valeurs dépassant les 35 degrés fréquemment jusqu'à 37 degrés dans la vallée de la Garonne et probablement dans la basse vallée du Rhône. Dans la moitié nord, ça restera encore raisonnable, si je puis dire, avec des valeurs autour de 27-30 degrés. Et puis ensuite, on en viendra aux deux journées les plus chaudes, que sont vendredi et samedi, où là, la chaleur va gagner aussi. Les fortes chaleurs vont aussi gagner la moitié nord, où là aussi, on franchira probablement localement les 35 degrés. Ouais. Et dans le sud, on frôlera les 40 degrés. Donc ça, c'est vendredi et samedi, cette fois-ci au nord et au sud, avant une chute brutale pour la journée de dimanche.
Et à partir de quand on peut parler d'épisode de canicule?
Alors là, c'est quand on a 3 jours consécutifs avec des températures très élevées la nuit et le jour. Pas certain qu'on y arrive dans beaucoup de régions au cours de ces prochains jours, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura donc pas une vague de chaleur, mais peut-être pas le seuil de canicule. Je rappelle qu'il faut entre 18 et 20 degrés la nuit dans la moitié nord, 20 à 23 dans le sud pendant 3 jours consécutifs.
Pour qu'on puisse parler de canicule.
Exactement. Et l'après-midi, que l'on dépasse les 35 degrés ou atteindre les 35 degrés dans la moitié nord et 36 à 38 degrés dans la moitié sud.
Alors, en tout cas, il y a une vague de chaleur. Serge Smadja, je me tourne vers vous, le médecin, quand le mercure approche les 40 degrés comme ce soir dans le sud-ouest, comment notre corps réagit? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en quelque sorte?
Quand il fait très chaud, le corps a besoin de lutter contre ce réchauffement et il doit tout faire pour éviter que sa température, la température du corps, ne s'élève pas trop.
Et donc
pour
il ça, se il régule, des, c'est ça?
Il se régule, voilà, il y a des mécanismes d'adaptation, il y a des mécanismes réflexes et le principal, pour être très simple, que tout le monde connaît, évidemment, c'est la transpiration. Et donc, la transpiration permet de rafraîchir un petit peu la peau et indirectement de faire baisser la température du corps. Il y a également les vaisseaux qui se dilatent, mais donc il y a tout un système d'adaptation qui permet de lutter contre cette augmentation de la température extérieure qui va donc augmenter la température du corps. Et les personnes qui sont fragiles, et on le sait bien sûr depuis cette fameuse canicule, qui sont ces personnes fragiles, personnes âgées, parce qu'elles ont la sensation de soif qui fonctionne moins bien, elles ont beaucoup moins la sensation de soif, c'est pour ça qu'il faut leur demander de boire, et elles ont leur mécanisme des glandes sudoripares qui fonctionnent moins bien, donc elles transpirent moins bien, elles transpirent mal, et donc elles peuvent moins rafraîchir leur
donc
corps.
Donc pour transpirer, pour faire face à la chaleur, il faut boire. Et il faut boire beaucoup. Plus il fait chaud, il faut boire davantage. Le conseil paraît bête, mais ça permet ensuite de transpirer et donc au corps de se réguler, c'est ça ?
C'est ça, voilà, exactement. Quand il fait chaud, on transpire, le mécanisme réflexe. Donc on a des pertes liquidiennes. Et pour que ce mécanisme réflexe fonctionne, il faut boire. Faute de quoi ? Il y a évidemment la déshydratation. Et puis si cela continue, la température du corps augmente et il y a ce qu'on appelle l'hyperthermie qui peut être grave si on ne réagit pas médicalement rapidement.
Alors comment protéger nos parents, nos grands-parents, nos anciens ? C'est une question que vous vous posez peut-être en nous écoutant. On va essayer d'y répondre, on va en discuter avec vous. Tiens, on va accueillir maintenant Bernadette au 3210. Bonsoir Bernadette. Merci pour votre appel. Vous êtes directrice d'un EHPAD dans les Hauts-de-Seine. Comment vous allez prendre soin des résidents dans les jours à venir ?
Nous sommes déjà, on anticipe, hein, dès que commence l'été, on sait qu'on va former les professionnels. Déjà, on a de plus en plus dans les EHPAD et dans le mien en particulier, il y a des salles qui sont réfrigérées ou en tout cas rafraîchies. On réunit ces personnes sous ou les climatiseurs ou dans les pièces rafraîchies et on les hydrate.
Serge Madja, comment on repère des signes de déshydratation chez une personne âgée ?
Ça commence souvent par des maux de tête. Ça, c'est le signe, ce qui peut être banal, mais auquel on doit être particulièrement attentif dans ces périodes-là, des maux de tête. Il y a aussi des crampes, et puis ces symptômes peuvent aller en s'aggravant jusqu'à entraîner des malaises. Pouvant aller après... Évidemment, jusqu'à des pertes de connaissances, des chutes de tension.
Tiens, on accueille Alain, qui nous appelle de Lyon, dont le papa est en maison de retraite. Bonsoir Alain.
Bonsoir à tous.
On a entendu Bernadette, j'imagine que le personnel est en train de prendre une série de mesures autour de votre papa et des autres résidents, c'est ça ?
Absolument, mon papa va atteindre bientôt les 80 ans, il a des difficultés, il a fait une encéphalite grave. Et un ventilateur donc a été mis dans sa chambre, les volets sont baissés, il y a des courants d'air entre guillemets, enfin une fenêtre et les fenêtres sont ouvertes. Et régulièrement, comme il n'a plus cette sensation de soif, un soignant passe et vérifie la quantité d'eau qui est bue et une fiche est tenue par résident pour vérifier la quantité qui est absorbée. Et devant le soignant, mon père doit s'hydrater.
Serge Madja, on vient de s'intéresser aux anciens. Il faut aussi surveiller les enfants là, avec cette vague de chaleur.
C'est pareil, parce que chez les enfants, le poids du corps, le poids est plus riche en eau. Ouais. Et donc, lorsqu'ils perdent de l'eau par la transpiration, le risque de déshydratation est beaucoup plus important. Donc, c'est aux âges extrêmes de la vie, les personnes âgées et les enfants. Et les enfants aussi, quand ils sont tout jeunes, il est difficile de surveiller l'apparition des symptômes. Comme évidemment, les maux de tête sont des enfants qui sont souvent très grognons. Et puis, un signe qui apparaît quand il y a un début de déshydratation, c'est déjà la température de la fièvre qui commence à apparaître. Donc ça, c'est un signe important chez les enfants à bien surveiller dans les périodes de canicule.
Louis Baudin, pour terminer, bon, on l'a compris, on surveille les personnes fragiles, on s'adapte, on n'a pas franchement le choix face à de tels épisodes, mais est-ce qu'il faudra s'adapter de plus en plus ? Est-ce que ces vagues de chaleur précoces seront à l'avenir plus régulières ?
Alors, je ne sais pas si elles seront plus régulières, mais ce qui est certain, c'est que quand il y en aura, elles seront probablement plus intenses, comme on est en train de le voir là, hein, il y en a régulièrement dans l'histoire et assez récente, mais c'est vrai qu'elles auront probablement 1 ou 2 degrés de plus, donc ça veut dire effectivement s'adapter, donc ça veut dire avoir des infrastructures qui globalement s'adapteront à ce type de situation, donc ça veut dire effectivement des bâtiments adaptés, mais probablement également des villes, parce que les villes font partie des endroits où la canicule, ou en tout cas les températures les plus élevées, végétaliser les villes, en tout cas les rendre beaucoup plus respirables, pour permettre d'atténuer un peu, ou en tout cas de ne pas aggraver, notamment par l'urbanisme, ces vagues de chaleur qui pourraient évidemment se prolonger dans l'avenir.
Bon, on va la surveiller cette vague de chaleur avec vous tout au long de la semaine sur RTL. Merci Louis Baudin, merci Serge Smadja, secrétaire général de SOS Médecins, pour vos bons conseils soir. Et merci à Bernadette et à Alain pour leurs appels ce soir au 3210. RTL à vos côtés face à ce coup de chaud.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Et RTL soir également aux côtés des bacheliers dans les dessous de l'actu. Dans un instant, on vous emmène dans une salle de classe de terminale juste avant le bac de philo demain. Et puis laissez-vous tenter dernière direction le Festival international du film d'animation. Ça se passe à Annecy. A tout de suite sur RTL.
RTL soir, Julien Cellier.
18h30, passé de 1 minute.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Et si vous nous rejoignez, si vous allumez la radio et RTL, Hortense Crépin vous rappelle les trois grands titres de l'actu ce soir.
Le message d'Emmanuel Macron depuis l'aéroport d'Orly avant de se rendre en Roumanie à 5 jours du second tour des législatives. Le chef de l'État appelle les Français à donner une majorité solide dimanche au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Après avoir baissé, les émissions de gaz à effet de serre de nouveau en hausse l'année dernière, plus 6,4% par rapport à 2020. Enfin, en tennis, she's back. Serena Williams de retour sur les courts un an après son abandon au premier tour de Wimbledon. Ce sera à la fin du mois sur le tournoi londonien justement. L'américaine a reçu une wild card, une invitation des organisateurs.
Merci Hortense. Le temps toujours brûlant demain dans certaines régions.
Exactement, Peggy. Jusqu'à 36 degrés Julien dans le sud-ouest, jusqu'à 35 dans le sud-est, 30 à 33 sur la moitié nord, 23 à 27 près de la Manche. Des averses orageuses passagères sur le nord du massif central qui vont se décaler vers la région Rhône-Alpes. Ailleurs, du beau temps et toujours un risque d'averses orageuses l'après-midi sur les relief des Pyrénées et de la Corse.
Merci Peggy.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
Et les dessous maintenant de la préparation du bac de philo. Cette épreuve si symbolique, ce sera demain pour les lycéens des filières générales et technologiques. Ultime épreuve écrite cette année. Bonsoir Marie Garrier.
Bonsoir.
Vous avez suivi le tout dernier cours de philo dans une classe de terminale, lycée de la Haute-Oie à Amiens. Racontez-nous ce dernier cours. C'était quoi, une séance d'entraînement avant le jour J?
Exactement. Christophe Auriot veut que ses élèves se mettent en condition.
On s'imagine le jour du bac. Pour certains, 8 de tension. Pour d'autres, 22. Alors justement, on va essayer de faire en sorte de ne pas être contaminé par la panique. On se crée des étapes.
Et pour tester la méthode, il leur propose de s'entraîner sur un sujet qui vient de tomber dans les lycées français d'Amérique du Nord.
Quel est le sujet qui vous intéresse?
Le premier, la conscience fait-elle obstacle au bonheur? C'est intéressant parce que c'est des notions qu'on a pas mal travaillées. Le bonheur et la conscience, le plan, il peut être assez simple.
Ne plaquez pas un plan immédiatement sur un sujet que vous n'avez pas problématisé. Première démarche, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on a une question.
On répond à la question.
On répond à la question. Alors, il ne suffit pas de dire oui. Dès lors que vous posez une proposition, énoncez immédiatement quelques arguments.
Je comprends rien à la philo depuis le début de l'année. Je sais pas, je suis trop terre à terre, moi, je comprends pas. Comment on peut aller aussi loin dans un sujet alors qu'au final, oui ou non, c'est bien.
Vous voyez comment vous procédez le jour du bac? Vous partez d'une hypothèse.
Et ensuite, il amène ses élèves à citer Kant, Descartes et d'autres références étudiées au cours de l'année.
Quel est le texte où il est question de lumière, d'ombre?
C'est l'allégorie de la caverne.
L'allégorie de la caverne, ça marche à tous les coups.
Bon, il a fallu presque une heure pour construire le plan de la dissertation avec le prof. Il reste ensuite 3 heures pour rédiger.
La philo, ça reste une épreuve assez mythique, comme une spécificité bien française.
Surtout sous cette forme. Ce n'est pas une épreuve d'histoire de la philosophie, mais bien un raisonnement demandé aux candidats.
C'est une plus-value de notre système éducatif que de maintenir la philosophie dans son exigence, à un espace où l'on interroge sa relation au monde, où on interroge sa relation à soi.
Ça m'a permis de me poser beaucoup de questions. Quand je me prends du recul, ça m'a donné une certaine maturité, en fait.
Bah, une prise de conscience, hein. On réfléchit à des sujets auxquels on réfléchit pas forcément dans la vie de tous les jours, et puis voilà, c'est intéressant comme matière.
Coefficient 8 pour les élèves en filière générale, coef 4 en filière technologique. Allez, un ultime conseil.
Bon, vous arrivez l'esprit frais, ouvert au questionnement, voilà.
Pas mal comme conseil, les dessous des préparatifs du bac de philo avec Marie Garrier dans une salle de classe d'Amiens pour RTL. Merci pour l'immersion, chère Marie.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
18h35.
Laissez-vous tenter, dernière.
C'est l'heure de la parenthèse culturelle maintenant. On va prendre un petit peu de hauteur, direction les Alpes, Annecy, où s'est ouvert hier soir le 46e Festival International du film d'animation. Bonsoir Stéphane Boutsock.
Bonsoir Julien, bonsoir à tout le monde.
Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Ce festival, c'est un événement qui compte dans le paysage du ciné mondial.
Ah ouais, de plus en plus. Vous savez, l'animation, au fil des années, et maintenant depuis allez, 2 décennies, c'est devenu une valeur véritablement sûre. Vous prenez la liste des films qui marchent le plus, quels que soient les pays, hein, c'est valable pour la France ou pour les États-Unis, vous trouvez toujours allez, entre 3 et 5 films d'animation qui sont dans ceux qui sont les plus vus. Ça rapporte des milliards de dollars, et puis il y a aussi une filière de formation de techniciens, de techniciennes, de dessinateurs. Donc oui, c'est devenu vraiment une valeur sûre du métier.
Est-ce que vous avez quelques chiffres pour qu'on mesure l'importance aujourd'hui de l'animation et de l'événement?
Alors, si je me concentre sur Annecy, entre 12 et 15 000 accréditations.
Ah oui.
Là, cette année, ah oui, quand même. Et si vous faites le cumul des places, c'est-à-dire des gens qui iront au moins une fois voir une projection ici, on arrive à 100 000 personnes. Je peux vous dire que les salles, qu'elles soient petites ou grandes, ouais, sont absolument remplies depuis hier. Et au programme, 500 films. C'est-à-dire que ça va du très court métrage jusqu'à la super production, comme celle qu'on a vue hier ou aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on y voit justement, Annecy ? Racontez-nous.
Bah, c'est ça qui est formidable, c'est que moi je suis arrivé hier et vous pouvez voir des tout petits films, c'est pas péjoratif, mais qui viennent de Roumanie, du Japon bien sûr, où il y a une école d'animation incroyable, de France, mais aussi Les Mignons, vous voyez, qui ont fait l'ouverture hier, qui est une énorme super production qui va débarquer. Vous connaissez, vos enfants aussi, je pense.
Oui, oui.
Donc
mais
voilà,
aussi
le,
évidemment.
Le panorama est absolument bluffant parce que vous voyez tous les genres d'animation, du dessin traditionnel à la 3D, au numérique, enfin vraiment c'est un panorama assez dingue.
Et ce soir, quel est votre programme ?
Ce soir, le retour de Michel Oslo. Alors, Michel Oslo, c'est le papa de Kirikou. Donc
ah
là,
oui,
ça,
super
remonte.
Ça.
Et oui, dessinateur et créateur français qui est l'apôtre du dessin animé traditionnel. Et puis moi, dans l'après-midi, ben, j'ai vu la première demi-heure du Chapoté 2. Vous savez, c'est un des personnages de la saga Shrek. Donc là aussi, c'est un grand écart, mais c'est un grand écart franchement assez jouissif ici, en tout cas.
Bon, vous prenez du plaisir, ça s'entend. Merci beaucoup, Stéphane. On vous retrouvera après donc les nouvelles aventures du papa de Kirikou. Demain matin, 9h15, depuis Annecy, dans Laissez-vous tenter sur RTL. À demain, cher Stéphane. Pour l'heure, RTL Soir se poursuit. On va défaire le monde. On va défaire le travail des députés, notamment en cet entre-deux-tours législatif. Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier essayent de trouver un micro pour dire bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, on a trouvé. Bonsoir.
On se retrouve juste après ça.
Bonsoir.
Oh, ça va.
On défait le monde. C'est dans un instant sur RTL.